Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de Métropolez-vous, le magazine que nous dédions chaque semaine à l'actualité de Toulouse Métropole. Les vacances scolaires de printemps ont commencé samedi dernier, offrant une parenthèse de 2 semaines aux écoliers, collégiens et lycéens qu'ils peuvent mettre à profit pour s'aérer et s'adonner à leurs loisirs favoris, mais aussi pourquoi pas pour se cultiver et visiter par exemple les nombreux musées et établissements culturels métropolitains. Heureuse coïncidence, qui n'en est peut-être pas tout à fait une d'ailleurs, le Muséum d'Histoire Naturelle vient d'inaugurer un nouvel espace au sein de son exposition permanente. Ce nouvel espace a été sobrement baptisé Biodiversité, ce qui indique de façon claire sa thématique générale. Et pour être encore plus clair, je précise que l'espace Biodiversité n'est pas une extension de l'actuelle exposition Sex Appeal, la scandaleuse vie de la nature, toujours en cours au muséum et que nous avions présenté dans cette émission il y a quelques mois. Cette précision étant faite, il reste à savoir ce que propose Biodiversité à ses visiteurs autour de ce mot qu'on entend souvent dans les médias et dans la bouche des politiques, en se demandant parfois s'ils savent bien de quoi ils parlent. Nous allons essayer de vous expliquer tout ça lors de cette émission. Et pour avoir des explications, j'ai la chance de recevoir aujourd'hui Francis Duranton, le directeur du Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse. Bonjour, soyez le bienvenu à Métropolez-vous. Je crois que c'est la 2e ou 3e fois que vous venez dans cette émission.
Oui, j'ai eu quelquefois l'occasion de participer à cette émission.
Et puis également à notre matinale. Alors avant qu'on parle du nouvel espace biodiversité, je voudrais qu'on rappelle pour commencer ce que donne à voir aux visiteurs l'exposition permanente du Muséum à ce jour, les autres espaces dont elle dispose déjà et les thématiques qui y sont abordées et traitées.
Alors l'exposition permanente, en fait, finalement, c'est tout le parcours de visite, c'est une initiation aux enjeux de l'écologie au sens large qui se présente à nous au début de ce 21e siècle. Dans la première partie, on va découvrir le véhicule sur lequel nous sommes embarqués, la planète Terre, toute seule, sans la vie. Puis on va découvrir qu'à la surface de la Terre, il y a du vivant. Que ce vivant, les scientifiques l'organisent, le classent, le rangent, ce qui nous permet de faire déjà une présentation de la classification du vivant, mais qui est également aussi une biodiversité ordonnée, mais par les scientifiques. On découvre ensuite que tout ce vivant a une histoire qui se prolonge, qui part très très loin dans le temps, jusqu'à plusieurs milliards d'années. Et puis la dernière partie de la visite nous amène à voir que toutes les espèces, la nôtre y compris, ne font que satisfaire finalement un certain nombre de besoins fondamentaux, comme se reproduire, se déplacer, percevoir et communiquer, se protéger, se nourrir, bien évidemment. Et puis, tout à fait en fin de parcours, le nouvel espace que nous allons proposer, Biodiversité, fait un petit peu la synthèse de tout ça et pose très clairement les enjeux aujourd'hui de la biodiversité.
Biodiversité, allons-y, donnons une définition de la biodiversité. Est-ce qu'il y en a une officielle, si on peut dire?
La biodiversité, en fait, la définition officielle dit qu'elle recouvre plusieurs termes. Dans le terme de biodiversité, qui est un terme commode, qui est un terme valise, en fait, il y a plusieurs niveaux de biodiversité. C'est ce qu'on explique dans cette exposition. Le premier niveau, c'est la biodiversité génétique, c'est-à-dire tous les individus ont un patrimoine génétique, nous sommes tous parents, mais tous différents, et c'est dans cette différence entre nos gènes que résident les potentialités d'évolution et d'adaptation des espèces. D'où l'importance de bien préserver la biodiversité génétique des différentes populations. Ça, c'est le premier point. Le deuxième niveau, c'est le niveau de la biodiversité spécifique. En clair, c'est quand je me promène dans le jardin des plantes à Toulouse ou tout simplement dans la rue, combien d'espèces est-ce que je vais rencontrer? Donc là, c'est le nombre d'espèces qu'on va rencontrer, la biodiversité spécifique. Et puis, il y a une biodiversité beaucoup plus large qui est la biodiversité des écosystèmes, c'est-à-dire des écosystèmes différents cohabitent, sont en interaction, une mare, un arbre, une forêt. Et tout ça, ce sont des niveaux qui sont extrêmement imbriqués les uns dans les autres et étroitement dépendants les uns des autres. Et tout l'enjeu de la biodiversité aujourd'hui, c'est de veiller à maintenir un équilibre entre ces différents niveaux, puisque dès qu'un niveau est en déséquilibre, eh bien, par voie de conséquence, tous les autres niveaux sont en déséquilibre.
Voilà, c'est toutes les interactions entre ces différents niveaux de la biodiversité. Bon, je rappelle que le terme biodiversité avait été consacré il y a un peu plus de 30 ans, en 1992, par le sommet de la Terre de Rio de Janeiro. Pourquoi il vous a semblé nécessaire aujourd'hui, précisément, d'enrichir le Muséum d'Histoire Naturelle de ce nouvel espace biodiversité? Est-ce que c'était justement pour que les gens comprennent bien de quoi quoi l'on parle.
Voilà, je pense qu'il fallait que les gens comprennent de quoi l'on parle. Et puis, si vous voulez, on parle beaucoup de la crise climatique. On en voit les conséquences tous les jours dans notre vie quotidienne, entre les épisodes météo dramatiques, le réchauffement du climat. Je crois que le mois de mars encore a été un des mois de mars les plus chauds de l'histoire. Donc, on voit bien qu'effectivement, il y a une crise climatique. Mais cette crise climatique, quand je discute avec mes collègues physiciens, en les taquinant, je leur dis c'est assez facile, le climat, on peut prévoir son évolution. Puisque le climat, c'est lié par des paramètres physiques et on peut le mettre en équation et donc modéliser ce qui va se passer. C'est ce que font d'ailleurs tous les scientifiques du GIEC qui alertent depuis de très nombreuses années sur effectivement ce réchauffement climatique et les risques qu'il fait courir à l'ensemble de la planète. La biodiversité, par contre, on en parle beaucoup moins. En tout cas, elle est compliquée à mettre en équation et pourtant c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que le maintien d'une bonne biodiversité garantit le maintien de bonnes conditions de vie pour l'ensemble des espèces de la planète. Et donc l'idée pour nous, c'était véritablement d'expliquer aujourd'hui les enjeux qu'il y a à conserver cette biodiversité et en même temps à la sensibiliser à l'érosion drastique que subit cette biodiversité. Les scientifiques parlent aujourd'hui d'une sixième crise extinction mondiale de la biodiversité, d'une sixième extinction. Et il est vrai que depuis quelques années, on voit une accélération de la disparition du nombre d'espèces. On a un taux, si vous voulez, de disparition d'espèces qui est très nettement supérieur à un taux normal d'extinction des espèces. Et donc, on est clairement rentré dans cette crise de la biodiversité. Et ça, c'est au niveau mondial.
Oui, parce qu'effectivement, certains disent, mais il y a toujours eu des espèces qui se sont éteintes, qui ont disparu. Bon, ce qu'on ne met pas en évidence, c'est le phénomène d'accélération qu'il peut y avoir depuis très peu de temps, finalement.
Tout à fait. Il est normal qu'une espèce disparaisse. Une espèce, ça apparaît à un certain moment donné, ça se développe, et puis ça finit par disparaître. Si on regarde les espèces de mammifères, la durée de vie moyenne d'une espèce de mammifère, c'est à peu près un million et demi d'années. Alors, pour notre propre espèce qui est apparue il y a 300 000 ans, ça nous laisse théoriquement quelques centaines de milliers d'années devant nous. Sauf qu'aujourd'hui, le taux de disparition est beaucoup plus rapide que tout ce qu'il a été dans l'histoire. Et donc là, on est clairement rentré dans une crise majeure de la biodiversité au niveau mondial.
Eh bien, merci pour toutes ces précisions et ces premières explications avant qu'on se projette pour de bon dans quelques minutes à l'intérieur de l'espace biodiversité du muséum. Dans les médias, nous allons nous intéresser à l'actualité métropolitaine, comme d'habitude avec Corinne Saint-Félix et son flash d'information hebdomadaire. Métropole et vous, l'actu.
L'eau est une denrée précieuse, Eric, et la métropole de Toulouse entend bien l'économiser dans son plan eau. Pour cela, plusieurs mesures vont être déployées sur son territoire, outre la surveillance et le renouvellement des canalisations. Depuis 2020, ce sont 27 km de réseau qui sont remplacés chaque année. La détection des fuites a permis d'économiser 1,3 million de mètres cubes d'eau en 2022 par rapport à l'année précédente. À partir d'aujourd'hui, les bonnes pratiques de sobriété de chaque commune vont être partagées. La métropole va mettre en place des groupes de travail communs et étudie la mise en place de groupements de commandes pour l'achat de matériel permettant la sobriété en eau. Toulouse Métropole accélère aussi la distribution gratuite de kits économiseurs d'eau, les EcoBox. 5000 kits ont été donnés en 2023. 30 000 EcoBox supplémentaires seront distribués normalement d'ici cet été. Composés d'un réducteur de débit pour douche, d'un mousseur pour robinet de cuisine et d'un mousseur pour robinet de salle de bain et d'un sac économiseur d'eau pour les toilettes. Ils permettent de réduire jusqu'à 30% de sa consommation d'eau au quotidien. Autre mesure mise en place, celle d'une tarification saisonnière pour inciter chacun à faire plus attention et à économiser l'eau. Autre information, c'est ce grand rebondissement dans le monde du sport toulousain. Toulouse Métropole débloque des fonds pour agrandir le stade Ernest Vallon. Le projet d'agrandissement souhaité par le président du stade toulousain, Didier Lacroix, semble donc évoluer. Jeudi dernier, la mairie et la métropole de Toulouse ont annoncé un soutien de 20 millions d'euros pour ces travaux. Ce sont les premières collectivités à s'engager sur ce projet en attendant le département et la région. Le projet doit être mené en concertation avec les habitants du quartier déjà impactés par la construction de la troisième ligne de métro qui doit arriver justement au pied du stade. La construction du stade Ernest Vallon remonte à la fin des années 70. Propriété de l'association Les Amis du Stade Toulousain, son enceinte peut accueillir actuellement jusqu'à 18 000 fans. Il est jugé pour certains trop petit pour accueillir des matchs de grande compétition, même si plusieurs matchs de la Coupe du Monde du rugby s'y sont par exemple déroulés. D'ici à 2027 ou 2028, sa jauge pourrait passer à 23 000 spectateurs. Dernière information, elle touche cette fois le monde des transports. Le nouveau mode de paiement pour les trajets TCO semble avoir été adopté. Depuis le 12 février, les voyageurs peuvent valider leur titre de transport avec leur carte bancaire sur l'ensemble du réseau TCO, métro, tram, bus, téléphérique, parc relais et navette aéroport. En 2 mois, plus de 300 000 validations ont été réalisées sur le réseau. Le but de ce nouveau titre de transport est de libérer le client des contraintes d'achat pour une plus grande souplesse d'utilisation du réseau et un gain de temps dans la préparation de son voyage. De nouvelles pratiques qui semblent déjà changer les habitudes des usagers.
Merci à Corinne Saint-Félix pour ce tour d'horizon de l'actualité métropolitaine. Alors peut-être Francis Duranton, une réaction. Je pense bien sûr à la première information, l'eau. Ben voilà, alors la biodiversité, l'eau primordiale.
Nous avons besoin d'eau pour vivre. Notre organisme est constitué à 98% d'eau. Donc il est clair que l'eau est une ressource essentielle, fondamentale et vitale. Et elle est vitale pour toutes les espèces. Donc l'économie de l'eau, c'est véritablement un enjeu extrêmement important dans la conservation de la biodiversité. Alors au-delà de l'eau, en tant qu'élément qui nous sert à nous nourrir, on a également le maintien des zones humides qui est extrêmement important puisque les zones humides abritent une biodiversité tout à fait particulière. Et économiser l'eau, ben c'est d'éviter d'assécher du coup les zones humides et permettre du coup à un certain nombre d'espèces de pouvoir se développer, de grandir avec des espèces emblématiques comme par exemple des plantes carnivores qui sont intimement liées à l'eau. On a besoin d'eau, les espèces ont besoin d'eau, économiser l'eau, c'est un véritable enjeu pour l'ensemble de nos sociétés.
Et puis les zones humides, il faut les préserver aussi parce qu'elles jouent un rôle d'éponge qui, évidemment, sont primordiales pour éviter des inondations. Et alors, les assécher, c'est très dangereux.
Elles participent effectivement de la régulation des périodes un petit peu, je dirais, de grosses précipitations et autres, et évitent effectivement d'avoir des inondations qui sont catastrophiques vers l'aval en général.
Mais merci d'avoir bien voulu commenter cette information de l'actualité métropolitaine. Retour maintenant au sujet principal de cette émission, le nouvel espace biodiversité du Muséum de Toulouse.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
La suite de Métropole et vous avec Francis Duranton, directeur du Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse. Bon, vous avez déjà bien expliqué, je pense, que vous avez voulu montrer et apprendre aux visiteurs de ce nouvel espace biodiversité. Une question aussi, mais qui l'a conçu, cet espace ? Alors, en règle générale, il y a un comité scientifique qui est constitué lorsque vous montez une exposition, ou là, en l'occurrence, un nouvel espace et une exposition permanente. Qui sont les membres ? Avec qui avez-vous travaillé pour celui-ci ?
Alors, effectivement, pour nous, l'enjeu d'avoir un comité scientifique est extrêmement important. Ça pose d'emblée le niveau de qualité et d'exigence que nous portons pour amener au public des informations qui soient les plus dans l'actualité possible des connaissances d'aujourd'hui. Donc le comité scientifique que nous avons constitué était un comité où il y avait beaucoup de Toulousains, et en particulier qui était le commissaire de l'exposition. C'était Christophe Thébault, qui est professeur à l'université Paul Sabatier et qui travaille notamment au centre de recherche sur la biodiversité et l'environnement. Alors, un commissaire tout seul, bien évidemment, il ne peut pas tout savoir, donc ce sont adjoints à lui d'autres chercheurs comme Clélia Sirami, qui est directrice de recherche à l'INRAE, Alexandra Magro, qui est professeure à l'ENSF FEA, qui est membre du Centre de recherche sur la biodiversité et l'environnement, et également Joel White, qui est maître de conférence en écologie évolutive à l'université Paul Sabatier. Et puis, bien sûr, on a eu des contributions de collègues du Muséum National et autres qui sont venus enrichir, finalement, le parcours de cette exposition, de ce nouvel espace.
Ce qu'il s'agit de faire, de montrer, c'est vraiment toute la diversité du vivant, les interactions entre ces différentes formes et donc, on en parlait il y a quelques minutes, l'interdépendance entre tous les êtres vivants et à ce titre leur fragilité et les dangers qu'ils encourent aujourd'hui.
Tout à fait, parce qu'effectivement les êtres vivants sont tous interdépendants. Nous-mêmes, en fait, nous sommes des écosystèmes. Ça, c'est ce que les gens ne maîtrisent pas. Nous abritons une quantité incalculable d'organismes. On a tous entendu parler du microbiote, plus ou moins. Mais le microbiote, ça participe de notre bonne santé. Ce sont des milliards de bactéries et autres qui vivent à l'intérieur de nous ou sur nous. Nous avons un microbiote sur la peau, nous avons un microbiote dans les poumons, nous avons un microbiote dans l'intestin. Nous vivons en symbiose finalement avec des quantités de bactéries et s'il y a un déséquilibre dans ces populations bactériennes, eh bien ça crée des maladies. Et donc, veiller à la santé de notre microbiote, c'est veiller à notre propre santé. Donc en fait, nous-mêmes, nous sommes un écosystème et c'est ce que nous avons voulu montrer dans cette exposition et que de notre santé dépend en fait de ces tout petits organismes qui eux-mêmes doivent être en bonne santé pour pouvoir permettre d'avoir une vie saine, quotidienne, classique.
Donc l'objectif est pédagogique, ça c'est plutôt pour les enfants, didactique pour les adultes et Le but, c'est de montrer comment fonctionne et se perpétue donc la biodiversité.
Tout à fait, puisque la biodiversité nécessite de se reproduire. Alors ça, on le voit beaucoup dans notre exposition Sex Appeal, qui est notre exposition temporaire. Voilà. Mais effectivement, montrer comment cette biodiversité va pouvoir se perpétuer est aussi, pour nous, une manière de montrer que lorsqu'une espèce disparaît, eh bien, en fait, toutes les espèces qui lui sont associées, eh bien, elles disparaissent également. Lorsqu'une espèce disparaît, eh bien, les bactéries qui vivent en symbiose avec elle disparaissent également. Donc, on pense à l'espèce qui disparaît, mais en fait, c'est une espèce qui est une sorte d'espèce, je dirais, parapluie, qui cache toute une biodiversité cachée qu'on ne voit pas, que parfois on ne connaît pas. Et certaines espèces même qui disparaissent avant même d'avoir été décrites, on sait que derrière, il y a des dizaines, voire des centaines, voire des milliers d'espèces qui lui sont associées et qui disparaissent.
Donc, l'espace présente trois niveaux de diversité. Vous en avez parlé tout à l'heure. Diversité génétique, diversité des espèces, diversité des écosystèmes. Comment tout ça est-il scénographié? Quels moyens avez-vous utilisé? Alors, est-ce qu'il y a des côtés immersifs? Est-ce qu'il y a des côtés interactifs aussi pour le visiteur?
Alors, comme toujours dans les expositions du muséum, il y a des côtés interactifs, il y a des manipulations. D'ailleurs, pour cette exposition, pour cette présentation, on a même noué un partenariat avec la société Procidis, qui fait que Maestro, le célèbre héros qui sait tout sur tout, qui a accompagné des générations et des générations d'enfants, participe à l'exposition et vient nous expliquer ce que lui aussi sait sur la biodiversité. Donc là, on a pas mal d'interactifs, plutôt à destination des enfants, mais qui, chez beaucoup d'adultes, créent aussi un petit revival, parce qu'on se souvient tous des émissions « Il était une fois la vie » où Maestro nous expliquait un petit peu ce qui se passait dans notre corps. Donc ça, c'est déjà un premier partenariat. Ensuite, on a choisi, bien évidemment, de travailler avec des exemples très concrets et des exemples locaux. Très souvent, lorsqu'on entend parler de la disparition de la biodiversité, on parle de la disparition des rhinocéros, des orang-outans, des girafes, enfin de la grande faune de manière générale. Mais la disparition de la biodiversité, elle est ici, à nos portes. Et on a choisi de parler de la forêt de Boucône comme un bon exemple de biodiversité. Et pour nous faire découvrir cette forêt de Boucône, on a deux petits compagnons qui nous guident un petit peu à travers la visite, qui sont un chêne et un geai. Voilà, qui nous permettent de comprendre un petit peu les interactions entre les différents organismes qui participent de l'écosystème global que constitue la forêt de Boucône. Puisque la forêt de Boucône en elle-même, c'est un écosystème, mais chaque arbre de la forêt de Boucône est un écosystème qui lui habite une multitude de micro-habitats. On n'a pas les mêmes animaux au niveau des racines, on n'a pas les mêmes animaux sous les écorces ou dans le feuillage de l'arbre. Donc tout ça, ça nous montre bien que c'est extrêmement imbriqué, très complexe, mais en même temps c'est très très local.
On reviendra sur ces promenades virtuelles, en quelque sorte, dans la forêt de Boucône. Promenades virtuelles qui ne demandent après qu'à être faites vraiment physiquement sur place. Je voudrais qu'on parle du microbiote. Comment vous l'avez abordé? Comment vous l'avez décrit? Alors, ces milliards de micro-organismes qui peuplent notre corps, comment on peut les montrer?
Alors, on les montre en expliquant un petit peu ce qu'il y a. Il y a quelques images qui permettent d'identifier des bactéries, des choses comme ça. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que l'ensemble des micro-organismes qui évoluent dans le corps humain, on en retrouve des quantités phénoménales. Et finalement, 50 à 60% de nos cellules ne sont pas humaines. Elles sont liées à ces organismes. Alors, on les retrouve partout dans le corps. On va les retrouver donc au niveau de l'estomac, on va les retrouver sur la peau, on va les retrouver au niveau des organes sexuels. Enfin, on en retrouve un petit peu partout, des microbiotes extrêmement différents. Et cette biodiversité intérieure fait finalement que nous sommes en bonne santé. Et donc, comprendre ça, c'est essentiel. Donc, on montre effectivement comment nous-mêmes, chaque individu, chaque auditeur de radioprésence est en lui-même un écosystème. Et l'écosystème de Monsieur X est différent de l'écosystème de Madame Y. Nous avons tous des petits écosystèmes différents, mais qui participent finalement de ce qui fait la diversité génétique de l'ensemble des populations.
Il y a un zoom sur le microbiote intestinal.
On a un petit zoom effectivement sur le microbiote intestinal, puisqu'on dit souvent que
on
parle de deuxième cerveau, et effectivement on se rend compte qu'il y a des interactions qui aujourd'hui sont encore en pleine étude.
Hein.
Il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent là-dessus pour justement bien comprendre les interactions entre ce microbiote et la santé générale, qui va jusqu'à la santé psychologique.
Alors, il y a donc cette fameuse promenade virtuelle en forêt de Boucône avec deux compagnons, si on peut dire. Bon, il y en a un qui est végétal, le chêne, l'autre animal, le geai. Donc, vous avez pris volontairement, je pense, un oiseau très familier qu'on a tous dans nos jardins souvent ou qu'on voit dans les jardins en ville. Et puis, le chêne qui est sans doute l'arbre emblématique dans notre pays. Il y a aussi un zoom sur la vie du sol, ce qu'il y a dans le sol. Extrêmement important. Hein.
Alors, aujourd'hui, effectivement, on découvre que le sol est extrêmement important. D'abord, il joue un rôle important en stockant du carbone, ce qui permet d'éviter, de ralentir en tout cas, le réchauffement climatique. Donc, avoir des sols en bonne santé, c'est extrêmement, extrêmement important. Et d'ailleurs, notre entomologiste est allé prélever 1 litre de sol dans la forêt de Boucône. Et dans un litre,
vous parlez en litre, pas en kilo.
Oui, on parle en litre, oui. Il a prélevé un litre et sur un litre de sol dans la forêt de Boucone, il a trouvé près de 1500 organismes différents. Ça nous donne une idée de la richesse du sol en nombre d'espèces. Et effectivement, la santé des sols est aujourd'hui un véritable enjeu. C'est vrai que beaucoup de nos sols sont dégradés. Nombre de nos sols sont dégradés parce que les pratiques qui sont les nôtres depuis des générations et des générations.
Les pratiques agricoles, entre autres.
Hein, entre autres, pas que. Parce que par exemple, l'artificialisation des sols fait qu'aujourd'hui, on a des sols qui parfois sont très compactés parce qu'on a construit dessus, parce qu'on a roulé dessus. Et donc, on est limité, si vous voulez.
On les a appauvris.
Voilà. Et finalement, on a appauvri les sols. Or, avoir un sol en bonne santé, c'est le gage d'une bonne biodiversité et c'est également le gage d'une limitation du réchauffement climatique. Donc les sols aujourd'hui sont un véritable enjeu, c'est un domaine d'études qui est en plein essor, à tel point que même d'ailleurs aujourd'hui, les chercheurs travaillent sur ce qu'ils appellent l'ADN environnemental, c'est-à-dire qu'ils vont prélever des échantillons de sol et que par des études d'ADN à l'intérieur du sol, ils vont être capables d'identifier la présence de certaines espèces que même on ne voit pas aujourd'hui.
C'est 60% de la biodiversité sur Terre, les sols.
60% dans les sols, oui. C'est extraordinaire. Alors c'est vrai que quand on dit au public, quand on leur parle de tardigrades ou de collemboles, c'est des groupes qu'on ne connaît pas. Mais pourtant, ils jouent un rôle extrêmement, extrêmement important, sans parler des milliards et des milliards de bactéries qui sont extrêmement importantes puisqu'elles participent également du développement des végétaux, d'un bon équilibre de l'ensemble du système.
Alors une chose qu'on peut dire aux gens lorsqu'ils vont se promener dans la forêt, s'ils veulent savoir ce que c'est un sol vivant, lorsqu'on marche sur le sol des forêts, c'est souple.
Oui.
Donc c'est extrêmement souple.
Un vrai sol est souple et permet effectivement d'absorber beaucoup. C'est ce qui fait aussi un petit peu le côté éponge des sols et des forêts.
Donc ce parcours de la visite, finalement, il va de l'infiniment petit, on parle des micro-organismes, à ce que notre planète peut présenter de plus grand, et on voit après, alors on reste pas qu'en forêt de Boucone, on voit un peu la biodiversité à l'échelle planétaire. Est-ce que c'est ça qui va permettre aussi de prendre conscience de toute l'interdépendance qu'il peut y avoir aussi entre les différentes zones de la planète ?
Tout à fait, toutes les zones de la planète sont interdépendantes, effectivement. Il faut que la biodiversité au sens large, et notamment les équilibres entre les écosystèmes, soit maintenu. Et aujourd'hui, un des enjeux consiste justement à préserver de très très grandes zones. On parle de tous les parcs naturels qui ont été créés à travers la planète. Et effectivement, ça participe du maintien d'une bonne biodiversité. Parce que cette crise-là, j'ai tendance à dire qu'elle avance un petit peu comme un citoyen masqué en temps de pandémie. On ne la voit pas. C'est une crise qu'on ne voit pas. C'est vrai que le matin, quand on se lève, on ne voit pas des hécatombes d'oiseaux morts devant sa porte, des quantités de cadavres d'animaux. Donc on ne se rend pas compte. Pourtant, ce qui est important à comprendre, c'est que les populations diminuent.
C'est-à-dire
très régulièrement. On a perdu près de 40% des oiseaux depuis un demi-siècle. Alors c'est vrai, il y a toujours des moineaux. Moi, quand je suis arrivé à Toulouse, il y a une quarantaine d'années, il y avait beaucoup de moineaux dans le jardin des plantes. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Par contre, on a des espèces invasives qui déséquilibrent complètement le milieu, comme les perruches. Alors c'est très joli de voir des perruches, sauf que ces perruches-là, elles sont agressives, elles sont invasives, elles se développent, et c'est au détriment des oiseaux qui étaient là autrefois, et en particulier des moineaux. Donc on a comme ça des déséquilibres qui se manifestent, et ça c'est clairement des gens qui avaient des perruches chez eux, qui, alors soit le jour où ils la nourrissaient, la perruche a repris sa liberté, soit parfois on les a laissés s'envoler. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces espèces-là se sont installées, elles deviennent invasives et elles sont en train progressivement de chasser les populations d'oiseaux qui étaient là autrefois.
A contrario, il y a des espèces qui, elles, sont bien autochtones, qui, elles, se développent. Est-ce que c'est abordé, ce sujet, je pense, aux pigeons ramiers, par exemple, ce qu'on appelle la palombe dans le sud-ouest, aux canards colverts, aux oiseaux piscivores aussi, qui se maintiennent bien. Est-ce que ce sujet est abordé pour essayer de comprendre pourquoi certaines se développent et d'autres régressent?
En fait, ce qui se passe, c'est que dans un milieu, lorsqu'on a un déséquilibre, il y a ce que l'on va appeler les espèces opportunistes, et celles qui vont profiter de la crise ou du déséquilibre. Et ça, c'est fréquent, même à travers l'histoire de la vie. On voit effectivement qu'à chaque phase de crise, il y a des espèces opportunistes qui se développent de manière extrêmement importante. Alors le pigeon ramier, les palombes, oui, sauf qu'il y a de moins en moins de passages de palombes que ce qu'il y avait il y a encore un demi-siècle. Par contre, on a une énorme population de pigeons domestiques qui aujourd'hui envahissent nos villes et que l'on retrouve un petit peu partout, ce qui ne va pas d'ailleurs sans poser problème. Vous évoquiez le canard colvert, effectivement. Le canard colvert, on a aujourd'hui des développements d'épizoos aussi importantes chez les anatidés, chez les canards en particulier, qui fait que chaque année, on abat des milliers et des milliers de canards d'élevage. Donc on voit bien que tout ça, c'est extrêmement imbriqué, extrêmement lié. Et on a par exemple dans notre région, un peu plus dans le sud-ouest du côté du Pays Basque, on a une espèce de canard très particulière qui, elle, est la seule à ne jamais être atteinte de la grippe aviaire. Donc il y a une espèce qui résiste à la grippe aviaire et effectivement aujourd'hui elle est très étudiée par les scientifiques pour comprendre quels sont les gènes qui lui permettent de résister à cette fameuse grippe aviaire.
aussi là, bon, cette crise à laquelle la biodiversité doit faire face, vous mettez en évidence les effets de l'activité humaine. Ça aussi, c'est pour que les visiteurs comprennent ce que même eux, à titre individuel, peuvent faire ou même doivent faire pour éviter que la biodiversité soit encore plus affectée qu'elle ne l'est déjà aujourd'hui.
Tout à fait, il y a des choses très très simples. Hein. Il y a des choses très très simples que chacun de nous peut faire à son niveau. Par exemple, on a un petit jardin. Très bien, c'est sympa le jardin. Mais si on ne coupe l'herbe que sur 30% de son jardin, eh bien on va tout de suite voir arriver de nouvelles espèces. On va voir des papillons, on va voir de nombreux insectes, on va voir beaucoup de choses qui participent du coup du maintien d'une bonne biodiversité. Parce que dès qu'on a des insectes, les oiseaux qui se nourrissent des insectes vont être présents. Et toute cette chaîne alimentaire va pouvoir se développer. Donc nous avons tous capacité à agir, chacun à notre niveau, sur notre environnement du quotidien. Il y a une expression qu'on entend souvent, c'est une mauvaise herbe. Mais c'est quoi une mauvaise herbe ? C'est une plante, en fait, comme une autre, qui a des besoins, qui a des besoins de vie.
Et qui a un rôle dans la nature.
Et qui a un rôle, qui participe également du bon fonctionnement d'un écosystème. Donc il n'y a pas de mauvaise herbe. Il n'y a que des herbes, bien évidemment. Alors certaines sont moins jolies. C'est vrai que des orties, c'est urticant. Voilà. Mais les orties, c'est urticant, mais en même temps, ça a tout un tas de vertus et de propriétés. Et en particulier, on peut faire avec un très très bon purin d'ortie qui évite d'utiliser des produits chimiques.
Et même des soupes d'ortie.
Voilà. Et même des soupes d'ortie qui, c'est vrai, ont un goût très très particulier. Donc il y a beaucoup de choses, si vous voulez, qu'on a intégrées, je dirais, à travers notre culture depuis des siècles et des siècles, et qui sont transmises de génération en génération, mais qui finalement sont des mauvaises représentations de ce qu'est la biodiversité. Donc on voit bien que nos enjeux aujourd'hui consistent à maintenir un maximum de biodiversité et que chacun d'entre nous peut également le faire à son niveau.
Alors, il y a une question que j'aime bien poser pour terminer lorsque je reçois des gens comme vous qui présentent des expositions. Comment espérez-vous que le visiteur ressorte de sa visite ?
Moi, ce que j'espère, c'est que les gens prendront conscience des enjeux. L'intérêt, c'est qu'il faut toujours comprendre quels sont les enjeux, parce que ces enjeux, bien sûr, nous les avons au niveau individuel, mais c'est ce qui fait, à terme, la survie de notre propre espèce. J'ai tendance à dire que la biodiversité, si vous voulez, c'est un peu comme un avion. Alors, à Toulouse, on connaît hein, les avions, c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps. Et la biodiversité, si vous voulez, ce sont les rivets qui vont fixer l'aile de l'avion sur le fuselage. Alors, on peut enlever un rivet, c'est pas trop grave. On en enlève deux, ce n'est pas encore très très grave. Au bout d'un certain nombre de rivets, c'est-à-dire d'éléments de biodiversité qu'on enlève, l'aile, elle commence à tanguer. Et lorsqu'on enlève un rivet de plus, l'aile se détache
et
l'avion tombe. Le problème, c'est que nous sommes dans l'avion. Et nous sommes les pilotes de cet avion. Puisqu'aujourd'hui, il est clair pour tous les scientifiques que l'érosion de la biodiversité est directement liée aux actions humaines. Tous les types d'actions humaines qu'on peut imaginer, hein, de l'exploitation des ressources, en passant par la pêche, la surpêche, l'agriculture, la création de pistes forestières, nos loisirs, enfin voilà, toutes nos activités ont, je dirais, des interactions très très fortes avec les milieux, de manière très générale, et lorsqu'on fragmente un milieu, eh bien on met en danger la biodiversité. Mais au-delà de cette biodiversité, ce que l'on met en danger, c'est notre propre survie en tant qu'espèce.
Eh bien, on terminera là-dessus, sur cet avertissement. On conclut. Merci d'avoir été l'invité de cette émission, Francis Duranton, et de nous avoir présenté dans le détail le nouvel espace biodiversité du Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse. Voilà une excellente idée de sortie à faire en famille pendant les vacances scolaires et même après d'ailleurs. Cet espace est ouvert au public depuis samedi. Avant votre visite, vous pouvez vous renseigner au préalable en vous connectant au site www.muséum.toulouse-métropole.fr. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, bonne fin de semaine et excellent week-end à tous.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.